Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui m'a interpellé, ce sont les mots de Paul Seixas, donc qui a dit, en étant au pied de la Sagrada Familia il y a quelques jours, qu'il accomplissait son rêve de gosse, même s'il a que 19 ans, de participer à son premier Tour de France. Il se rappelle qu'en tout petit, il regardait les exploits de Julien Alaphilippe et de Thibaut Pinot sur ce Tour de France mythique, on s'en souvient. En football cette semaine, Erling Haaland, qui va affronter le Brésil demain avec la Norvège, a parlé de la confrontation, comme un rêve de gosse aussi. Il disait, quand j'étais gamin, voilà, je me disais un jour, j'espère pouvoir affronter à la Coupe du Monde la Seleção. Il va y avoir droit. Donc je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui, les amis. Quand un sportif de haut niveau se retrouve face à son rêve de gosse, Jérôme, Pascal et Marc. Tiens, Marc, ton premier Tour de France, est-ce que tu utilisais les mêmes mots que Paul Seixas? Est-ce qu'il y avait la dimension de rêve de gosse? Est-ce qu'on se raccorde à ce qu'on était enfant?
On se raccorde à ce qu'on était enfant. Moi, alors je l'ai pris sous un angle différent. Quand je suis arrivé sur mon premier tour, c'était avec Bernard d'ailleurs, en 82, le premier Tour de France. Je me souviendrai toute ma vie du frisson que j'ai eu en montant sur la rampe de lancement du prologue à Bâle en Suisse.
Ah oui.
J'ai dit là, ça y est, tu y es. Tu rentres dans le grand monde. En fait, quand on est coureur cycliste, quand on a fait le tour, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites, je suis coureur cycliste professionnel. Ah ouais? La première question qu'on vous pose, c'est, t'as fait le tour? Si vous répondez oui, vous êtes un vrai coureur professionnel. Si vous répondez non, j'ai pas fait le tour, on sent bien qu'il y a une petite déception chez la personne qui vous a posé la question. Donc ouais, le moment sur la première rampe de lancement de mon premier Tour de France, c'est un moment particulier.
C'est pas neutre.
Je m'en rappelle.
Même si t'as fait des courses avant.
Non, c'est pas neutre. Et le deuxième grand moment sur un des grands moments sur le Tour, c'est les Champs-Élysées.
Ah ouais.
Quand tu finis ton premier tour sur les Champs-Élysées. Et c'est pour ça que moi je suis un peu sceptique sur la nouvelle formule de la dernière étape du Tour. Je trouve que on pourrait faire une grande course à Paris, un grand prix de Paris
avec
la butte de Montmartre. Et je pense que ça aurait un succès phénoménal. Mais quelque part, le Tour, c'est un truc. L'arrivée sur les Champs, c'est quelque chose de différent. Et l'arrivée en peloton sur les Champs, ça a une saveur et ça symbolise quelque chose.
Alors, c'est
les médias, on s'emmerde sur la journée. On s'emmerde à regarder l'étape des Champs.
C'est l'étape des coureurs, les Champs.
Pour le peloton. C'est fait pour les coureurs. Ouais. J'ai envie que Christian nous entende et qu'il se souvienne que l'étape des Champs, c'est l'étape qui appartient aux coureurs. C'est le moment où les rescapés du Tour se parlent dans le peloton. Pendant 3 semaines, ils se sont fait la guerre. Au moment de la dernière étape du Tour, ils se parlent, ils se congratulent.
Et on rend les armes ensemble.
Et on rentre sur les Champs ensemble. Vous voyez, toi là, regarde. Ouais, regarde,
j'ai la chair de poule.
J'ai la chair de poule parce que c'est un truc unique.
On va monter la clim.
C'est unique. C'est la magie du Tour.
Est-ce que c'est une troupe qui rentre du champ de bataille?
On rentre. Tu te rends compte de l'immensité des Champs. Quand au premier passage, avant d'entrer sur les Champs, il y a une clameur. Il y a une clameur qui monte. La route est ouverte. Le peloton est tout petit.
Ouais.
Mais il est majestueux sur les Champs-Élysées. Et il y a cette communion entre les coureurs au sein du peloton, il y a cette communion entre le peloton et les spectateurs.
Mais t'en parles, t'es ému. Franchement, c'est touchant.
Pourtant, ça fait un moment que j'ai pas fait le.
Avant de vous écouter, les gars, la fascination dont tu parles pour le tour, là, le fait, la première fois sur la rampe et la première fois sur les Champs-Élysées, pendant ton premier Tour de France, parce que je pense à Paul Seixas, par exemple, ton premier tour, t'arrives à t'en détacher? La fascination.
Non, t'es forcément pris par le tour.
Est-ce que t'arrives à courir normalement?
Pas au début. La première journée sur le tour, tu dis, ah ouais, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un peu différent avec le il va y avoir une petite entrée en matière.
Demain,
première étape, et la première étape en France, là, tu te dis, ah ouais, c'est quand même autre chose.
Donc il faut s'y faire quand même, Jérôme Pinot, toi, t'as connu ça aussi.
Juste, la petite particularité d'aujourd'hui, quand même, tu vas te rendre compte que t'as jamais fait 14 km de chrono avec trois rangées de spectateurs de chaque côté de la route. C'est la première fois que ça va lui arriver. Avec du son, avec du bruit, avec un hélico,
Des caméras partout qui vont scruter chacun de ces petits gestes.
Ouais.
tout va être repris, analysé, disséqué, et
on
tout
ce que faire.
Vous
voulez.
Mes souvenirs de gosse ont construit mon rêve de faire le tour. Quand tu es gamin, quand tu es dans une famille cycliste, on t'emmène autour. Et moi, mon papa faisait.
Et puis le regard change.
Mon papa faisait l'ardoisier au Tour de France féminin. Et à l'époque, le Tour de France féminin était avant le Tour de France avec masculin. Jeannie. C'est à l'époque où tu étais pote avec Jeannie.
Très amis. On est très amis.
Et je sais. Mais à l'époque, un peu moins. Ouais. Bon, bref. Et du coup, moi, petit, j'allais voir et j'allais chercher mon père. Sur les champs, j'étais invité avec ma mère, mon frère, et on allait voir mon père. Et je me souviendrai toujours de ce son quand Daniel Mangas, speaker, dit « Mesdames, messieurs, les coureurs du Tour de France, c'est un spectacle, tu rentres en scène. » Et ça, pareil, les frissons, quand tu le vis, 20 ans plus tard, 2002, tu rentres sur les champs, t'es là où tu voulais être, en fait. Et je crois que moi, le sentiment que j'ai de ce jour-là est plus fort que sur la rampe de lancement au Luxembourg.
Et le regard du public et des gens et de ta famille
a changé.
Et parce que j'ai une image forte quand je suis gamin et je m'y vois à la place. Je me rappelle un peu plus tard, on était très proche de l'équipe Z à l'époque avec mes parents. On allait voir Roger. Et je me rappelle de voir les coureurs Z et notamment Éric Boyer, bronzé, affûté à l'arrivée du Tour, et de voir un coureur, j'en ai vu plein des coureurs cyclistes professionnels avant de voir Éric Boyer, mais de voir Éric Boyer à la fin du Tour de France, il avait quelque chose presque de mystique, de vrai, tu sais, comme quelque chose qui n'est pas la réalité. Tu dis c'est un coureur du Tour de France.
Et toi tu t'es senti comme ça quand tu l'as fini ?
Eh ben ouais, je suis un coureur du Tour de France. Ben après ce fameux, parce qu'il y a les champs avant étaient de bonne heure dans la journée, on avait le plaisir de faire un tour d'honneur en équipe, acclamé par les spectateurs qui étaient venus nous voir. C'était très différent, avec une petite binouse dans la poche quand même, parce qu'on avait le droit après.
Avec modération.
Et on est allé sur la route pour rejoindre le bus de l'équipe. Là, je me suis dit, je vais être Éric Boyer. Les gens vont me regarder comme ça.
Donc, tu t'es vraiment raccroché au gamin que tu étais, quoi.
Bien sûr, je me suis souvenu de tout ça.
Mais alors, est-ce que tu as réussi à être toi-même, justement, je vais poser la question à Marc, pendant les trois semaines du tour, à être toi-même, à courir normalement, ou est-ce que.
Oui, après la course reprend.
Ou est-ce que le tour t'a un peu écrasé pour la première
fois? Le tour m'a écrasé. J'étais le plus jeune du tour. J'ai fait mon premier Tour de France. 6 mois avant, j'étais amateur et 2 ans avant, je jouais au football. Donc, tout allait très vite. J'ai lu la fameuse lettre Je m'engage avec Armstrong, Pantani, Ulrich. C'était drôle. Je m'engage, Patrick. Et derrière, j'ai fait les trois premières étapes. Je t'ai dit, premier prologue, je pars. J'ai piqué la combinaison de Walter Beneteau. J'avais pas ma combi. La deuxième, je tombe 7 fois. Enfin, j'ai mis 3-4 jours à me mettre dedans parce que c'était immense. Puis moi, j'avais jamais fait une course par étape plus longue que le Tour de l'Ain. Quoi. C'était incroyable pour moi d'être là. Et surtout, le monde t'étouffe. Je suis un peu claustro. Quand il y a trop de monde, je suis pas fou. Et j'avais pas mesuré ça.
Ça doit te galvaniser aussi.
Et la dernière grande image. Et après, je te laisse,
Pascal. Ça galvanise aussi.
La dernière. Ah ouais. Alors moi, j'étais quelqu'un qui me nourrissait du soutien. Mais pour être soutenu, faut être devant. Là, j'ai pas été beaucoup devant cette année-là. J'ai fait deuxième d'une étape mon premier Tour de France. Et la dernière image que j'ai, qui est incroyable, c'est le lendemain des champs. Parce que le lendemain des champs, les champs sont redevenus publics et tu prends encore plus conscience.
Et tu t'arrêtes au feu rouge avec ta bagnole.
Oh, la veille,
c'était à nous.
C'était nous.
C'était à nous.
C'était notre scène.
Non, mais il y a quelque chose de mystique, évidemment, dans le Tour de France et dans le fait de se retrouver face à son rêve de gosse. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. On parle des sportifs de haut niveau face à ce qu'ils ont rêvé de vivre, comme va le vivre Paul Sexas pour son grand départ aujourd'hui, comme le vivent actuellement les joueurs à la Coupe du Monde de foot. Toi, Pascal Duprat, dans ta carrière, évidemment, de joueur, là, j'ai envie d'aller sur le joueur. Il y a le moment où on est professionnel. Il y a le moment où on devient un professionnel, ça, dans le foot. Un joueur de première, deuxième division, un joueur de l'élite. C'est des moments qui marquent aussi. C'est pas des moments neutres. Tu écoutais tes collègues.
Ah non, c'est pas des moments neutres. En fait, moi, le rêve de devenir joueur professionnel, un peu comme Jérôme, c'est allé très vite. À 14 ans et demi, donc j'avais tous les clubs professionnels et j'ai dû choisir dans lequel j'allais rentrer dans le centre de formation. Il se trouve que je suis allé à Sochaux. Et à partir du moment où t'es là, t'as les images, t'as les images des grands joueurs. Moi, celui qui m'a vraiment, à part mon père, bien entendu, mais celui qui m'a vraiment donné envie de jouer au foot, c'est Johan Cruyff. C'est la Coupe du Monde 74. Il perd en finale. Je m'en remets pas tellement je le trouve bon, tellement je trouve injuste qu'ils aient perdu. Et donc, quand tu te retrouves donc dans un centre de formation, bah, chaque minute que tu passes à l'entraînement ou dans les matchs des équipes de catégorie jeune ou de l'équipe réserve, t'as qu'un but ultime, c'est jouer ton premier match professionnel. En fait, ça te hante, tu es un raté si tu n'y arrives pas, en fait. Donc, t'as ça, tu te fous la pression en permanence, tu commences à t'entraîner un petit peu avec les pros, on t'appelle de façon ponctuelle à t'entraîner avec les pros parce que on a vu que, ben, en réserve, tu performais bien. Et puis arrive le moment où, ben, t'es convoqué et tu vas jouer ton premier match. Et moi, il se trouve que c'était contre Nantes. Et j'en garde un souvenir mitigé. Parce que l'appréhension, j'ai pas dormi la veille, l'appréhension de jouer mes premières minutes en professionnel. Et puis je me souviendrai, bah, toute ma vie. À la mi-temps, j'ai la satisfaction de faire, il me semble, un bon match. Et puis je me fais reprendre de volée par le directeur sportif qui me traite de vieux, qui me disent que j'ai été nul. Et franchement, je rentre la seconde mi-temps, je suis en pleurs. Et j'ai mes parents dans les tribunes. Et je contiens mes larmes, tellement j'ai la haine pour ma première. Donc le plus beau jour de ma vie, et puis un cauchemar, juste par des paroles, que t'es peut-être justifiées, je sais pas, mais en tout cas, que j'ai jugé extrêmement dur. Donc tu rejoues la deuxième mi-temps de ton premier match professionnel, et t'as ça dans la tronche. Le mec, il t'a défoncé à la mi-temps. Tellement défoncé que...
Oui, c'est les moments qui vous marquent au fer rouge. Mais tous, votre première, ça qui est intéressant. Non, mais Pascal, toi, est-ce que t'es arrivé, parce que là t'as eu les critiques de ton entraîneur, de ton directeur sportif, est-ce que t'es arrivé à jouer normalement, à être toi-même?
J'ai réussi parce que j'avais des coéquipiers qui étaient confraternels, en fait, qui m'ont tapé sur l'épaule, qui m'ont dit écoute, ça nous est tous arrivé. Bon, en fait, dans un club comme le FC Sochaux, il y a beaucoup de joueurs formés à la même école, donc on parle le même langage. Et puis surtout, ce qui m'avait réconforté, c'était les mots de l'entraîneur de l'époque, qui s'appelait Jean Fauvergue, et lui m'avait dit en me pinçant la joue, il m'avait dit Pascal, laisse tomber, c'est un con. Et ça m'avait réconforté pour la seconde mi-temps.
Et ça a été des mots, j'imagine, hyper intéressants pour toi, pour la suite de ta carrière derrière. Et les mots dans ces moments-là, dans les premiers Tours de France, notamment, j'imagine, sont déterminants aussi sur la construction du coureur de grande boucle que l'on va être derrière. Je veux juste revenir sur un truc qu'a dit Pascal intéressant. Il a pas beaucoup dormi la veille de sa première comme professionnel. T'as beaucoup dormi sur ton premier Tour de France?
J'ai pas de souvenir de la nuit précédente, mais je suis arrivé dans un état de stress et d'excitation qui, à mon avis, permettait pas d'avoir au moins un sommeil profond. C'est sûr, je partageais la chambre avec François Simon à l'époque, mon premier Tour de France, et il me guidait, il me suivait beaucoup. Mais malheureusement, en plus, il a été contraint à l'abandon rapidement, et c'est là où je me suis retrouvé dans la chambre avec Didier Rousse, et là ça a commencé à être le grand frère qui m'a guidé. Mais les premières nuits, non, j'ai l'impression que je dormais pas beaucoup. Et pour revenir à ce que disait Pascal, moi, Pascal, tu le sais, je suis un grand passionné de football, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Pour une chose notamment, je voulais jouer dans un stade plein avec plein de bruit dedans. Et quand je suis arrivé au Tour de France, c'était ça, j'ai retrouvé ça.
Bon, et toi, tu as bien dormi sur ton premier tour, Marco?
Je n'ai pas de mauvais souvenirs.
Oh, mais toi, tu dors bien partout parce que la pression n'a pas de.
Si, mais non, je n'ai pas de souvenirs particuliers par rapport à ça.
Bon, on espère que Paul Sexas va dormir sur des oreilles qu'il a fait sa nuit de 12 heures avant la première.
Oh, il n'a pas dû faire 12 heures, mais il a dû faire. S'il a fait 6, 7,
7 heures, 8 heures, c'est bien.
C'est déjà pas mal. Allez, on referme la porte du vestiaire, les amis, à retrouver en podcast, évidemment, le sportif de haut niveau face à son rêve de gosse.